Examinons maintenant le mécanisme de mélange des deux composants peur et colère. Il y a trois situations possibles. La première, la peur est déjà présente. Un groupe, s'il a peur, est peu efficace, mais il peut être stable. Cependant, si un événement génère une colère intense chez les membres du groupe, par exemple une maladresse de management, la combinaison des deux éléments peut générer de la haine qui peut à son tour provoquer une réaction de conflit ouvert brutal. Deuxième option, la colère est déjà présente. Par exemple, un groupe éprouve de la colère contre un mode de management particulièrement inadapté. Si ce groupe est soudain informé de projets de restructuration risquant d'impliquer des licenciements massifs, la peur de ce danger peut conduire les membres du groupe à la haine et donc au conflit ouvert. Dans ces deux situations, l'un des composants est déjà présent de façon endémique, je dirais, dans l'organisation, dans l'organisme social. Puis le deuxième composant est brutalement introduit. C'est la situation que j'observe le plus fréquemment. Il y a une troisième option possible, c'est les deux composants sont « injectés » entre guillemets simultanément. Je donne un exemple. Les membres du groupe apprennent, par des indiscrétions, que la direction élabore en grand secret un projet de cession de la structure. Ces informations sont en contradiction flagrante avec le discours officiel de la direction générale qui se veut optimiste et rassurante. Les salariés peuvent brutalement éprouver une peur intense liée au danger possible de la cession pour leur emploi et une colère par rapport à la désinformation. Voyons maintenant un risque complémentaire qui est ce que j'appelle le porteur de colère. Le porteur de colère est une personne ou un petit groupe qui exprime la colère contre le ou les leaders et se déclare porteur de la colère collective. J'ai identifié deux catégories de ce que j'appelle les porteurs de colère. Première catégorie, c'est celui qui est mandaté pour. Il s'agit d'une personne ou d'une organisation qui est officiellement élue ou désignée pour représenter le groupe. Ça peut être par exemple des délégués du personnel, des délégués syndicaux ou le chef de l'équipe concernée. Autre type de porteur de colère, celui qui est spontanément émergent. C'est une personne ou un groupe qui est soudain porté par les membres du groupe à les représenter. Et le porteur de colère spontanément émergent est souvent la première personne à oser exprimer publiquement une colère ressentie par tous. Et le porteur de colère spontanément émergent est en lien direct, très souvent, avec ce qu'on appelle les coordinations, qui sont aussi des créations spontanées d'une organisation qui ne prend pas du tout en compte les organisations officielles chargées entre guillemets normalement de représenter les personnes concernées. Examinons quelques éléments sur le fonctionnement du porteur de colère, quel qu'il soit. Le constat que je fais, c'est que le porteur de colère catalyse facilement pour plusieurs raisons. L'ensemble des membres du groupe concerné est porté par la colère de la personne qui l'exprime et qui du fait devient leader. Deuxième élément, ce leader est la personne qui prend le risque de s'exposer aux éventuelles rétorsions et sanctions, par exemple de la part de la direction. Il est donc possible d'exprimer sa colère tout en s'abritant, entre guillemets, derrière lui. Vous savez, c'est on fusille les meneurs, on fusille pas toute la troupe, c'est pas possible. Troisième élément, lorsqu'une personne exprime de la colère, elle ressent moins la peur. C'est donc un remède puissant dont les effets sont très rapides pour neutraliser cette angoisse qui ronge la personne, cette peur. En effet, l'expression brutale de la colère est une décharge émotionnelle qui soulage de la peur. Je donne un exemple. Le soldat qui accumule la peur dans la tranchée et qui la décharge brutalement par le vecteur de la colère lorsqu'il monte à l'assaut. Il peut même y avoir une certaine euphorie à l'attaque. Et pour la grande majorité des personnes qui ressentent cette euphorie, cette dernière n'est pas liée au jeu avec le danger, mais elle est liée au soulagement de sortir d'une peur lancinante. Enfin, on se débarrasse de cette angoisse qui nous ronge depuis des jours. Et ce qui nous en débarrasse, c'est l'expression brutale de la colère. et non d'un chien, ça fait du bien. Une autre considération que je voudrais ajouter, la première source de conflit est le sentiment de justice. Plus je considère que ma cause est juste, plus je peux être tenté d'utiliser tous les moyens pour la faire triompher. Je peux même envisager des actions violentes et illégales, car, comme on dit, c'est pour la bonne cause. Et c'est ainsi qu'on peut voir parfois des représentants d'organisations tout à fait sérieuses et recommandables en arriver à des extrémités en contradiction avec les normes de l'organisation et avec la loi, telles que intimidation, violence, manipulation, voire trucage. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'un groupe agressif est un groupe qui est en colère, certes, et ça se voit très nettement, mais c'est aussi un groupe qui a peur. Et nous verrons que ça donne deux portes d'entrée possibles.